Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Masques, couvre-feu, confinement, restrictions, équipements devenus familiers pour une bonne partie de la population de la planète. Des dispositifs dont chacun rêve, il ne faut pas s'en cacher, de se débarrasser. Oui, mais pour cela, on l'attend, lui. Le vaccin, ce produit qui pourrait permettre à nos organismes vulnérables au nouveau coronavirus de développer des anticorps, de déclencher une réaction immunitaire protectrice, vaccin libérateur, mais au moment où nous parlons encore, toujours hypothétique. Le vaccin, la solution, mais pas pour tout le monde, puisque cet outil qui a fait ses preuves contre de redoutables maladies infectieuses, variole, rage, diphtérie, mais aussi rougeole ou coqueluche, eh bien ces vaccins qui sauvent chaque année des millions de vies, ces vaccins ont leurs détracteurs. Et cet agrégat parfois discordant de sceptiques n'a pas attendu les réseaux sociaux pour décrier les découvertes de Louis Pasteur ou d'Edward Jenner. Les anti-vaccins se manifestent depuis que la vaccination existe, mais aujourd'hui, ils disposent de capacités très efficaces de diffusion de leur message, de leur idéologie, certains diront de leur capacité de nuisance. Alors au-delà de la recherche, des tests, des brevets, il va falloir prévoir, penser à demain, préparer une stratégie de vaccination adaptée à un contexte très difficile, développer un intense effort en termes de pédagogie, capable d'apaiser, de rétablir une confiance en partie abîmée par des messages contradictoires, des erreurs non assumées et un déficit d'anticipation dont les soignants à pied d'œuvre dans les hôpitaux français sont une nouvelle fois aujourd'hui en train d'assumer les conséquences. Course contre la montre pour trouver le vaccin. Quelle stratégie pour optimiser l'adhésion? Quels arguments pour contrer la rhétorique des anti-vaccinations? Deux invités avec nous. Patrick Zilberman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la santé, professeur émérite à l'École des hautes études en santé publique, également cofondateur du séminaire du Val-de-Grâce sur les maladies infectieuses émergentes. Et vous venez de signer aux éditions Odile Jacob La guerre des vaccins. Docteur Jean-François Saluzzo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes virologue consultant vaccin, ancien directeur des vaccins viraux chez Sanofi Pasteur. Et vous avez signé aux éditions Belin le livre La saga des vaccins contre les virus. Procédure donc, on va en parler, à accélérer pour trouver ce vaccin contre le coronavirus. Il y a les tests cliniques en cours. Et avant que les preuves de l'efficacité ne soient acquises, il y a des inquiétudes déjà au sujet de l'accès à ces futurs vaccins. Nous en parlerons avec Emmanuel Bord, responsable pays pour la République démocratique du Congo au sein de Gavi, l'Alliance du vaccin.
Priorité santé sur RFI.
Notre objectif à terme est simple, réduire très fortement les contaminations et passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000, ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital et en réanimation. Test en 30 minutes, meilleur traçage, isolement plus efficace des personnes positives, qui est un sujet sur lequel nous devons continuer à réfléchir. Une fois le pic épidémique passé, tous ces outils doivent nous permettre demain de tenir jusqu'au vaccin à l'été, nous disent les scientifiques.
Tenir jusqu'au vaccin à l'été, voilà ce que disait Emmanuel Macron, la semaine dernière, 28 octobre précisément, alors qu'il annonçait aux Français le nouveau confinement pour essayer de limiter l'impact de la deuxième vague du coronavirus. Tenir jusqu'au vaccin l'été prochain, nous disent les scientifiques, pour citer complètement le président de la République. Alors, docteur Jean-François Saluzzo, cette échéance, on l'a attendue cet été. Est-ce que c'est aujourd'hui du domaine du possible?
Alors, je vais quand même vous rappeler un peu l'histoire des vaccins et comment on prépare des vaccins. Jusque, disons, aux années 90, il y avait deux sortes de vaccins. Des vaccins inactivés, c'est-à-dire qu'on tuait le virus et on faisait le vaccin, soit des vaccins vivants qui étaient atténués. Dans les années 90, on a réussi, grâce aux nouvelles techniques de génie génétique, à utiliser seulement des fractions du virus pour faire un vaccin, ce qu'on appelait les vaccins dits sous-unitaires. Et récemment, des révolutions très importantes ont été a accompli avec des nouvelles techniques faisant appel à ce qu'on appelle au génie génétique. C'est-à-dire qu'on est capable d'insérer cette information génétique du Covid dans un autre virus, par exemple l'adénovirus, etc. Et même plus récemment, une révolution complète qui n'a jamais fait ses preuves, j'insiste beaucoup sur ce point, ce sont les vaccins à base soit d'ADN, soit à base d'ARN. Vous voyez, il y a une panoplie à l'heure actuelle tout à fait exceptionnelle d'approches. Et d'autant plus que les chercheurs travaillent sous forme de plateforme, par exemple.
Excusez-moi, docteur Jean-François Saluzzo, ces points-là sur la fabrication, la production, la recherche, on va y revenir. Mais j'ai une question pour nos auditeurs qui disent on porte des masques, on a envie de retrouver nos conditions de vie d'avant. Le président de la République, solennellement, en citant les scientifiques, dit il y aura un vaccin cet été. Vous êtes vous-même scientifique et je vous repose ma question, j'insiste et je m'en excuse, mais quand même, est-ce que c'est du domaine du possible ?
Disons, un vaccin, on peut toujours faire un vaccin, mais ce vaccin ne sera pas totalement validé. Vous comprenez très bien que pour valider l'efficacité d'un vaccin, on ne peut pas faire ceci en 3 mois. Démontrer que vous êtes vacciné, que le mois qui suit, on contrôle votre immunité et on vérifie que vous n'avez pas contracté un maladie, c'est possible, bien sûr. Mm-hmm. Mais cela ne prouve pas que vous allez être protégé au bout d'un an, 2 ans, etc. Un vaccin se qualifie sur la durée. Donc on peut prendre effectivement des risques en disant, ben voilà, j'ai un vaccin, nous le mettons dans le commerce et après on verra si ça marche ou non, quoi.
Ce que vous nous dites, c'est que c'est un processus long et qu'il y a vraiment des étapes qui ne peuvent n'être ni abrégées ni escamotées. Pourtant, on a cette fameuse course aux voisins avec toute une série d'annonces, on va y revenir. Finalement, cette concurrence scientifique à vos yeux, c'est quelque chose de bon, docteur Saluzzo ?
Bien sûr. Nous sommes dans un cas très particulier, puisque, si vous voulez, il y a 150 ou 190 laboratoires qui se sont lancés dans cette fameuse course au vaccin. Mais lorsque un industriel produit un vaccin, il fait ça sur ses fonds propres, c'est-à-dire que lorsqu'il prend la décision d'aller en phase 3, par exemple, cette décision doit être réalisée à partir des connaissances très précises des études préalables, parce qu'on engage des sommes colossales pour faire une étude de phase 3, 300, 500 millions. Vous doutez très bien que l'industriel qui utilise ses fonds propres pour aller dans cette phase-là prend des risques énormes. Et donc, il lui faut toute une série d'études. Lorsque, dans la situation où nous trouvons, où le financement est entièrement réalisé par des fonds publics, il est évident que l'industriel, ne prenant aucun risque financier, peut très bien aller franchir toutes les étapes, prendre le risque d'aller en phase 3, même s'il n'a pas toutes les données suffisantes pour y aller. Ce n'est pas un problème pour lui, puisque financièrement, il n'a aucun risque. Les risques, par contre, vont se poser en termes d'efficacité et en termes de
responsabilité. De responsabilité. Voilà. On va insister au cours de cette émission sur la notion de confiance. On va bien sûr revenir sur ces histoires de délai. Confiance face à la vaccination, pour comprendre le lien très particulier que chacun d'entre nous peut entretenir avec ces vaccins qui sont inoculés dans l'organisme, souvent avant qu'on ait d'ailleurs son mot à dire, quand on est bébé. Relation ambiguë, hein, Patrick Zilberman, parce que on le sait, les auditeurs de Priorité Santé le savent, on le dit souvent, on y a consacré beaucoup d'émissions. Les vaccins, c'est une arme très efficace contre les infections, pour lutter contre les épidémies. Mais malgré tout, la défiance, elle ne date pas d'hier. Vous l'analysez au travers de votre livre « La guerre des vaccins ». Avec les réseaux sociaux, il y a du sensationnalisme, on va dire. Mais depuis longtemps, il y a les vaccins, il y a les chercheurs et puis il y a les antivax.
Oui, absolument. C'est pas l'histoire de quelques semaines ni de quelques mois. En fait, c'est une histoire qui s'étend, si vous voulez, sur plus d'un siècle, puisque on va retrouver, si vous voulez, la structure même de l'idéologie antivaccinale sur d'autres sujets. Mais enfin, la structure est là, si vous voulez. Je vais expliquer ce que ça veut dire aux États-Unis dans les années 1890. Mais avant, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est que l'été nous a révélé, si vous voulez, une certaine méfiance dans certaines catégories de la population, les plus jeunes par exemple, vis-à-vis de la vaccination. Mais il y a aussi des changements qui s'annoncent. Par exemple, on s'aperçoit là cette année que les soignants, toutes catégories confondues, sont beaucoup plus en faveur de la vaccination contre la grippe cet hiver qu'ils ne le sont d'habitude. Vous savez que la vaccination contre la grippe chez les soignants est la plupart du temps à un niveau assez bas. Mmh. Or, cette année, on voit qu'il y a quelques changements à cet égard et quelques progrès, si vous voulez.
Ça veut dire, Patrick Silberman, qu'il y a une prise de conscience, peut-être, face à cette crise sanitaire?
Un effet de la situation épidémique, ça, c'est trop tôt pour le dire.
On peut pas encore savoir, donc on peut pas encore en tirer des conclusions. Docteur Jean-François Saluzzo, le scepticisme, hein, même si ce n'est pas à proprement parler, puisque vous êtes virologue, votre domaine d'expertise, vous avez travaillé notamment en Afrique de l'Ouest, à Dakar, auprès de l'Institut Pasteur. C'est quelque chose dont on parlait, se méfier des vaccins au sein de la population, c'est quelque chose que vous avez constaté?
Non, ce qu'on constate effectivement, ça vient d'être dit que c'est un vieux problème au niveau des pays industrialisés, mais il est évident que dans les pays du Sud, le vaccin est au contraire attendu et très attendu. Je peux vous dire, quand il y a une épidémie de fièvre jaune, vous voyez les parents porter les enfants sur 10 kilomètres pour les faire vacciner. Non, il n'y a absolument aucune méfiance, et même, je dirais mieux, il y a un souhait d'avoir du vaccin, et c'est l'exemple de la grippe. La grippe, maintenant... sous l'égide de l'OMS, un effort colossal a été fait pour que les pays du Sud développent des vaccins grippe, et ils l'ont fait avec un grand intérêt et un enthousiasme. Par exemple, le Brésil est devenu un gros producteur de vaccins contre la grippe, alors qu'il n'avait aucun vaccin il y a quelques années.
Des perceptions différentes, parce que pour vous, docteur Saluzzo, justement, en fonction de ce péril infectieux, quand on est, pour parler simplement, on se sent directement menacé par les virus, ça limite vraiment les hésitations.
Il y a d'une part le péril infectieux qui n'existe pratiquement plus, c'est vrai, dans nos pays industrialisés. La perception des familles de pouvoir protéger l'enfant. Il faut se rappeler que à l'époque de la variole et avant la vaccination massive contre la variole, il y avait une tradition dans les familles. Quand on interrogeait une famille, qu'on lui disait « Vous avez combien d'enfants ?», les parents répondaient « Je ne peux pas vous le dire encore, ils n'ont pas tous eu la variole ». Donc à l'époque, si vous voulez, c'était dramatique. Et de nos jours, cette perception existe encore dans les pays du Sud, où certaines maladies sont dramatiques. Une épidémie de rougeole reste importante en Afrique. D'autres maladies, comme le paludisme, etc., les maladies infectieuses restent une des causes de mortalité importantes. Bien sûr, dans nos pays industrialisés, nous avons une perception totalement différente. Doit-on se vacciner contre la polio alors que le virus n'existe plus ici? On peut répondre non, mais il suffit qu'on relâche quelque peu les vaccinations polio pour que l'épidémie reparte. Et on a des preuves claires qu'une très légère diminution des campagnes de vaccination, ça a été le cas au Nigeria, aboutit à la diffusion du virus en quelques jours en Indonésie. Donc vous voyez à quelle vitesse les virus peuvent circuler en raison des transports aériens.
Mmh. On voit bien les différents contextes. Est-ce qu'on peut pour autant, Patrick Silberman, parler d'une géographie de la défiance vaccinale?
Alors, on peut parler de cette géographie dans les termes qui viennent d'être dits, c'est-à-dire en opposant les pays du Sud et les pays riches, si vous voulez. L'anti-vaccination, c'est un phénomène aujourd'hui des pays riches essentiellement.
Mmh. Ce que vous relevez dans votre livre La guerre des vaccins, c'est que justement ces anti-vax, eh bien, ils sont très divers, très variés, les croyances, les arguments reposent sur des aspects complètement différents, d'ailleurs parfois complètement farfelus, avec cette capacité permanente à contester la preuve scientifique.
Absolument, mais les différences, si vous voulez, d'idéologie vaccinale n'empêchent pas, si vous voulez, qu'il y a une structure globale très forte qui est absolument intangible. Cette structure globale, elle est composée de deux choses. D'une part, d'une immense conspiration qui est toujours la même et qui est à une échelle énorme et qu'on retrouve, si vous voulez, à la fois chez les populistes américains de la fin du 19e siècle, mais aujourd'hui dans une mouvance qui s'appelle QAnon, aux États-Unis également, mais qui fait des petits maintenant en Europe. Et puis, vous avez un sentiment de persécution qui est nourri par cette échelle énorme du complot, ou des complots, si vous voulez. Et donc, vous avez une structure de l'anti-vaccination qui est très stable, qui est incroyablement stable, qu'on retrouve à l'identique à travers les années, à travers, je dirais même à travers les siècles, ce qui est assez étonnant, oui.
Alors justement, la grande question, c'est comment favoriser l'adhésion aux politiques de santé publique. Actuellement, les autorités françaises sont directement confrontées à cette question clé, puisqu'on est en pleine deuxième vague de Covid-19. Si on se réfère à la hausse des admissions en service de réanimation dans les hôpitaux du pays, on va y revenir longuement tout à l'heure. Mais vous soulignez, Patrick Zilberman, qu'il y a ces critiques. Certes, il y a le scepticisme, certes le complotisme, mais il y a aussi des facteurs concrets, des croyances, mais aussi des scandales sanitaires, un certain nombre d'accidents qui ont pu faire beaucoup de mal.
Oui, alors évidemment, la série ininterrompue maintenant depuis les années 1980 de scandales sanitaires n'est pas pour arranger les choses, ça c'est sûr. Ce qui n'est pas pour arranger les choses non plus, c'est la précipitation avec laquelle certains annoncent, si vous voulez, prématurément, qu'on dispose de tel ou tel vaccin. C'est pas une bonne chose de courir comme ça après une opinion qui est elle-même contradictoire, qui à la fois attend le vaccin avec anxiété et en même temps n'en veut pas, parce que si un vaccin arrive trop vite, c'est qu'il a été insuffisamment testé et étudié, et donc il n'est pas sûr. Donc ce que je résume de la façon suivante, si vous voulez, c'est qu'il y a un trou dans notre stratégie pour en ce qui concerne la vaccination, et ce trou, c'est tout ce qui est communication publique.
Et c'est sur un travail sur lequel il va vraiment falloir avancer. Quand on parle d'un accident vaccinal, docteur Jean-François Saluzeau, on parle de quoi précisément?
Alors, il y a plusieurs aspects dans la vaccination, dans l'histoire de la vaccination. Il y a eu effectivement des accidents, c'est-à-dire qu'après inoculation du vaccin, par exemple, le vaccin était malheureusement mal inactivé. C'est le cas de la polio. Mm-hmm. Il y a eu, dans les années 1955, ce qu'on appelait les accidents Keter, où des enfants ont reçu un vaccin qui était mal préparé. Il y a eu des phénomènes identiques avec la tuberculose, etc. Ça, ce sont typiquement des accidents qui se produisent immédiatement après la suite de la vaccination. Par contre, il y a ce qu'on appelle des effets secondaires, c'est-à-dire de la fièvre, etc. Et c'est là, évidemment, que ce débat peut se poser, c'est-à-dire une surveillance à court terme peut le démontrer, mais les anti-vaccins s'engagent non pas sur ces accidents à court terme. Jamais, on vous dira, le vaccin a provoqué de la sclérose en plaques 3 jours après la vaccination. Non, les anti-vaccins s'engagent sur des maladies dont on ne connaît pas l'origine. C'est, par exemple la sclérose en plaques, par exemple l'autisme, etc. Et dans lequel on essaye de faire un parallèle entre l'évolution quantitative des vaccinations et l'augmentation du nombre de maladies, par exemple dans le cas de l'autisme. Et dans ces cas-là, c'est ce parallèle-là qui essaye de démontrer qu'il y a un accident de vaccination à long terme et qu'on associe ainsi le vaccin à un problème de santé publique majeur. Mais jamais on attaquera, ces personnes attaqueront le vaccin en disant, vous voyez, 3 jours après, la personne a eu l'autisme ou a eu une sclérose en plaques. Non, pas du tout. C'est sur des maladies sur le long terme dont on ne connaît pas l'origine.
Avec l'établissement d'un rapport de causalité, on va dire, sans preuve scientifique indiscutable.
Alors ça c'est très clair, même ça a fait l'objet parfois de scandales, hein, vous avez peut-être entendu parler
l'affaire
de l'histoire
Wakefield.
De Wakefield, voilà, avec le vaccin contre la rougeole, qui avait monté une affaire financière finalement, pour essayer d'associer le virus de le vaccin de la rougeole, et puis on s'est des problèmes d'autisme, et on s'est aperçu que c'était une escroquerie de grande ampleur.
Et qu'il y a eu la caution de certaines revues qui ont dû ensuite se rétracter. On va se retrouver, messieurs, dans quelques minutes après une pause musicale. On continue dans Priorité Santé de parler des vaccins, confiance, recherche, pédagogie, hein, surtout pour favoriser l'adhésion, avec une respiration. Alicia Keys, Underdog.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop,
single mothers waiting on a jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah.
Alicia Keys dans Priorité Santé. On retrouve nos deux invités en direct dans Priorité Santé, donc guerre des vaccins, saga des vaccins et une longue liste. Hein. La réponse immunitaire déclenchée par un vaccin expérimental allemand, premier test clinique en Israël. Vaccin chinois qui devient un enjeu politique au Brésil. Deux laboratoires sur les rangs pour obtenir l'approbation des autorités de santé américaines, même si c'est pas aussitôt que l'aurait souhaité le président sortant des États-Unis, Donald Trump, alors qu'il était encore en campagne. Et puis la Russie, hein, elle, c'était cet été l'annonce d'un vaccin Sputnik V, soumis à l'OMS, ce vaccin en préqualification. Et d'ailleurs, il y a une question d'auditeur, je vous l'adresse, docteur Jean-François Saluzzo, c'est Duprin qui est à Brazzaville au Congo et qui dit « Qu'est-ce que l'on sait au juste de ce vaccin russe Sputnik et qu'en pense l'OMS ?»
Alors, ce vaccin rentre dans le cas des vaccins que je vous ai rapidement expliqué, c'est-à-dire c'est un vaccin dans lequel on a inséré l'information du virus du Covid dans un adénovirus. Donc c'est un vaccin qui est assez proche de notre vaccin que la France a commandé chez Astra. Donc ce que les Russes ont fait, c'est très simple. Ils ont fait cette construction, une construction de ce type-là, il faut à peu près 3 mois pour la faire. Ils ont immédiatement passé sur des volontaires, une trentaine de volontaires, et ils ont considéré qu'ils avaient un vaccin. Et ils ont demandé l'autorisation de mise sur le marché dans leur pays. Donc cette chronologie est tout à fait exceptionnelle. On revient, si vous voulez, 50 ans avant, hein, lorsqu'on développait les premiers vaccins. Dans le laboratoire, on développait le vaccin, on testait ce vaccin sur une dizaine de techniciens et puis on le mettait dans le commerce. Bon, cette situation n'existe plus, mais c'est exactement ce que font les Russes, c'est-à-dire ils n'ont pas pris en considération une qualification, même si peut-être ils font des études pour compléter, mais ils ont considéré qu'ils était en mesure de commercialiser ce vaccin qui, en plus de ça, est tout à fait nouveau. Hein, j'insiste sur ce point-là.
30 volontaires, docteur Saluzzo, c'est quelque chose qui vous choque ?
Écoutez, je vous dis, dans les années 50, les premiers vaccins ont été faits de cette façon. Mmh. On vaccinait une trentaine de personnes entre la famille et les techniciens de laboratoire, et puis on disait, on a un vaccin, et puis on le mettait dans le commerce. Généralement, ça a à peu près marché. C'était une approche, il y a eu des échecs, il y a eu, etc., mais c'était une approche qui était tout à fait banale. De nos jours, c'est tout à fait inadmissible. Les gens ne peuvent pas accepter de se faire vacciner par un vaccin qui peut soit induire des effets secondaires graves, ce qui serait terrible, soit encore, soit totalement inefficace. Donc, si vous voulez, là on peut toujours lancer les autorités, les laboratoires chinois aussi annoncent qu'ils ont commencé à vacciner. Mais je veux dire, sans qualifier un vaccin, c'est un retour 50 ans en arrière, quoi.
Et justement, vous, spécialiste de la vaccination, l'historien de la santé Patrick Zilberman, comment est-ce que vous suivez cette effervescence, vous qui travaillez justement sur le mouvement de défiance au vaccin, vous estimez que c'est quelque chose qui est plutôt bon pour trouver un vaccin, donc pour favoriser ce mode de protection indispensable en santé publique, ou à l'inverse, c'est de nature vraiment à inquiéter l'opinion ?
Non, enfin, ce dont on prend conscience, si vous voulez, c'est que quoi qu'on fasse, on inquiète l'opinion. Si vous dites le vaccin arrive, les gens vous disent, vont vous dire mais c'est beaucoup trop tôt, il n'a pas été suffisamment étudié. Si vous dites le vaccin ne sera là que dans un an, on vous dit mais c'est beaucoup trop tard, nous serons tous morts avant. Donc il y a un gros problème de communication avec le public, et c'est ce problème, on est loin de l'avoir résolu. Il y a une autre, on discute là depuis quelques minutes, et on a raison de le faire, de problème de sécurité des vaccins, mais il y a d'autres problèmes aussi. Par exemple, il faudrait s'assurer que tel ou tel vaccin est bien adapté à telle ou telle catégorie de la population. Comme par exemple les immunodéprimés dont la réponse immunitaire est toujours insuffisante.
Alors pour bien expliquer pour nos auditeurs, ça veut dire que certains vaccins comme le BCG, comme celui de la rougeole, ne peuvent pas être inoculés à des personnes qui par exemple sont en traitement en biothérapie ou surtout qui souffrent du VIH et qui ont une charge virale active. Ça veut dire que ça pourrait tout simplement les rendre malades. Donc il faut avoir des vaccins spécifiques, c'est bien cela.
Voilà, exactement. Et c'est pas sûr que les essais cliniques suffisent à nous renseigner sur ces problèmes.
Alors justement, au-delà de l'hyperactivité, on en a parlé, de l'efficacité des futurs vaccins, autre sujet, cette course effrénée, est-ce qu'elle est de nature à rassurer ou à gonfler les rangs des sceptiques? Et puis comment justement permettre au plus grand nombre d'accéder, le cas échéant, à ces vaccins? On va en parler tout de suite.
RFI.
On en parle avec vous, Emmanuel Bord, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Responsable pays pour l'RDC au sein de Gavi, à l'Alliance du vaccin. Pour être le plus clair possible pour nos auditeurs, quelques mots d'abord pour expliquer le Gavi, c'est quoi précisément, Emmanuel Bord?
Oui, bien sûr. Gavi, l'Alliance mondiale du vaccin, c'est une organisation dont la mission est d'améliorer l'accès au vaccin pour les enfants les plus vulnérables du monde. Gavi a été fondé en 2000 et son but est véritablement de contribuer à sauver des vies, de lutter contre la pauvreté et de protéger le monde contre la menace d'épidémie.
Donc y compris
un élément clé.
C'est très important justement cet accès à la santé publique dans les pays du Sud, dans les pays les plus défavorisés. On sait que le vaccin c'est, on va dire, peut-être l'outil le plus accessible de santé publique. Et justement, aujourd'hui, cette fameuse question de l'accès peut se poser quand un certain nombre de pays développés se sont mis très vite à commander, on va dire presque à réserver d'importantes quantités de doses du futur vaccin Emmanuel Bord. Et j'imagine que le Gavi a réagi à ce mouvement.
Alors, vous parlez de l'initiative pour le vaccin contre la Covid-19.
Absolument.
Tout à fait. Donc c'est absolument, et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel, et je vous remercie pour cette opportunité de parler de l'initiative COVAX. Donc qu'est-ce que c'est que cette initiative COVAX? C'est une initiative qui vise à assurer un accès équitable au vaccin contre la Covid-19 à l'échelle mondiale. Parce que personne ne sera en sécurité tant que nous ne serons pas tous en sécurité dans tous les pays du monde. Donc concrètement, il y a eu un dialogue qui a été engagé avec plus de 180 pays, qui représente plus de 90% de la planète et qui a débouché sur une collaboration mondiale qui est vraiment unique pour accélérer le développement et la fabrication des vaccins Covid et pour garantir un accès juste et équitable pour toute la planète. Aujourd'hui, c'est déjà 186 gouvernements, dont la France, d'ailleurs, dans le cadre d'un partenariat avec l'Union européenne, qui ont accepté de rejoindre cette nouvelle initiative COVAX, ainsi que les laboratoires qui poursuivent leurs recherches. Donc, ce qui est vraiment essentiel de comprendre, c'est que COVAX proposera le portefeuille de vaccins contre la Covid-19 le plus vaste et le plus diversifié au monde. Et surtout, il permettra d'assurer une répartition équitable. Notre objectif, c'est de distribuer 2 milliards de doses de vaccins sûres et efficaces contre la Covid-19 d'ici la fin de l'année 2021.
Alors, un partenariat, les pays, l'OMS, le Gavi. Et quel engagement, Emmanuel Bord, vous parliez justement de l'industrie pharmaceutique, cette recherche qui essaie de produire ce fameux vaccin, quel engagement de leur part? Parce qu'on avait entendu au début de la crise du Covid-19, tel ou tel laboratoire dire « je vais réserver une partie de ma future production, on est toujours au futur, à tel ou tel pays, on va dire plutôt des pays riches ». Est-ce que les choses ont changé?
Écoutez, ce qu'on constate, c'est ce mouvement qui est sans précédent en faveur de cette initiative. On a, avec la facilité COVAX, déjà des accords avec plusieurs laboratoires, et le nombre augmente, pour permettre de produire ces doses de vaccins et ensuite de pouvoir les répartir de façon équitable et d'avoir un accès dans tous les pays, y compris pour les populations les plus pauvres, qu'elles soient en mesure, comme tout le monde, et au même moment, de disposer de ces vaccins. Donc oui, on travaille étroitement avec ces laboratoires. Il y a déjà 700 millions de doses qui sont déjà confirmées, qui font l'objet d'accords. On avait un objectif de mobilisation de 2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année pour permettre justement de financer et de contribuer au coût de l'achat de ces vaccins pour les pays à faible revenu, et les pays à revenu élevé sont vraiment à hauteur de ce rendez-vous. C'est déjà 1,8 milliard de dollars qui ont été mobilisés sur cet objectif de 2 milliards d'ici la fin de l'année.
Alors, il y a la question de la disponibilité, il y a la question du coût, mais aussi, on va dire, le qualitatif, conditions de conservation, quand on pense à des vaccinations en milieu tropical, par exemple. Est-ce que le Gavi travaille également pour favoriser la production de vaccins qui soient en cohérence avec certains contextes sanitaires très particulier? J'ai pensé tout simplement à la réfrigération dans des sites médicaux éloignés des grandes métropoles. Il n'y a pas forcément d'électricité, il n'y a pas forcément de congélateur. On a entendu parler de certains vaccins qui devaient être conservés à très basse température, vraiment en dessous de 10 degrés, voire plus, plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro Celsius. Est-ce que vous travaillez aussi sur le qualitatif, Emmanuel Bord, au Gavi?
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison de soulever cette question. Je voudrais d'ailleurs signaler que ces problèmes logistiques, ces défis logistiques que vous citez, ce sont déjà des défis que nous rencontrons dans beaucoup de pays en développement que nous appuyons. Et justement, Gavi joue un rôle important en termes d'appui aux autorités, au ministère de la Santé, en partenariat avec l'UNICEF, l'OMS et d'autres, pour permettre de renforcer par exemple la chaîne de froid, pour permettre de garantir que les vaccins qui sont déjà disponibles dans le programme de vaccination systématique soient conservés dans des bonnes conditions. Parce que sinon, évidemment, l'efficacité de ces vaccins est compromise. Donc, concernant les futurs vaccins contre la Covid, Gavi a déjà mobilisé une enveloppe de 150 millions de dollars qui va être utilisée pour à la fois apporter une assistance technique pour la préparation de l'introduction de ces vaccins, parce que ça demande un travail considérable aussi de la part de l'ensemble des pays, y compris des pays du Sud qui recevront ces vaccins pour être prêts, qu'il s'agisse de effectivement la chaîne de froid, mais aussi de tout l'aspect technique,
les agents vaccinateurs, etc.
Et un autre aspect de cette enveloppe, c'est aussi de pouvoir renforcer la chaîne de froid pour permettre effectivement d'être en capacité de conserver ces vaccins dans les conditions nécessaires pour que leur efficacité soit optimale.
Et là, on touche au concret. Merci beaucoup, Emmanuel Bord, pour ces explications. On va aborder la dernière partie de notre échange, toujours en ligne avec nous dans Priorité Santé, Patrick Zilberman. Dans votre livre, La guerre des vaccins, on comprend qu'il y a cet aspect de produits, de découvertes, de recherche, mais aussi, bien sûr, la stratégie, la confiance, la clarté du message, l'option d'une vaccination obligatoire. Est-ce qu'elle vous semble recommandée ou hors sujet face à l'épidémie actuelle de coronavirus?
Alors, c'est un problème difficile parce que, comme vous le savez, vaccination obligatoire, ça n'existe pas chez les adultes. Nous avons depuis fin novembre 2017 une loi en France qui prévoit la vaccination obligatoire des enfants de 24 mois pour 11 vaccinations, mais nous n'avons aucune vaccination obligatoire pour les adultes. Donc, imposer l'obligation vaccinale dans le domaine de la lutte contre la Covid, ça risque de poser des problèmes, des problèmes vis-à-vis de l'opinion, si vous voulez. Parce que l'opinion, c'est, les anti-vaccins, c'est pas un groupe compact, si vous voulez. C'est une espèce de collection hétéroclite de gens plus ou moins fantaisistes. Et la plus grande partie, si vous voulez, ce ne sont pas des gens qui sont contre les produits vaccinaux, mais sont des gens qui sont contre l'obligation, dans la mesure où l'obligation représente l'interférence de l'État dans la vie privée des individus. Donc, c'est un problème très délicat. Je suis pas sûr que ça aide beaucoup à vacciner les gens contre la Covid, mais c'est un problème sur lequel on a encore trop peu travaillé.
En tout cas, ce qu'on voit, on a parlé beaucoup de défiance, mais on voit là vraiment depuis quelques semaines dans les officines françaises, dans les pharmacies, eh bien que, on va dire, les vaccins antigrippaux s'arrachent. Est-ce que pour vous, c'est un bon signe, hein? Il se peut que dans un an, dans 18 mois, il y ait une campagne de vaccination, on l'a donc compris à votre avis, qui serait plus pertinente qu'elle soit ciblée sur des populations spécifiques contre le Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon signe justement que toute une partie de la population se décide à se vacciner contre la grippe?
Bah, c'est une très bonne chose, évidemment. Le problème, c'est de savoir si c'est une modification durable des idées et des comportements. Moi, j'en sais rien, j'en sais absolument rien. Ce qu'on constate dans l'histoire, si vous voulez, c'est que lorsqu'il y a une épidémie, les gens font la queue au bureau de vaccination, et lorsque l'épidémie disparaît, plus personne ne parle de vaccin. Donc, est-ce que on va revenir encore à ce jeu de yo-yo éternel, si vous voulez, entre vaccination et non-vaccination et épidémie? J'en sais rien. En tous les cas, c'est clair, si vous voulez, que le rush sur la vaccination anti-grippe est une bonne chose en soi, mais ne donne pas, si vous voulez, d'éléments suffisamment convaincants pour prédire les comportements qui vont se mettre en place aujourd'hui, quoi.
Docteur Jean-François Saluzzo, tout à l'heure, vous vouliez insister sur un point, et je pense que c'est très important d'en parler à présent. Tout à l'heure, on parlait de l'effervescence dans la recherche, également de la multiplication des annonces, y compris au sein de la classe politique, pour dire le vaccin, on en a besoin, le vaccin, c'est pour bientôt. Mais il faut faire avec, justement, les contraintes de la production. Et là, vraiment, il y a des temps, des conditions qui sont incompressibles. On ne peut pas produire n'importe quel vaccin sur n'importe quelle chaîne de production.
Voilà, c'est exact. Je voudrais justement tempérer un peu le représentant de Gavi qui font un remarquable travail, parce que j'ai travaillé avec eux sur la fièvre jaune en Afrique et ils ont fait un travail extraordinaire de vaccination contre la fièvre jaune. Mais parler de milliards de doses, il faut comprendre que ce n'est pas aussi simple. Prenons un exemple très simple. Si on a un vaccin inactivé, comme par exemple les Chinois le proposent, la référence de ces vaccins inactivés, c'est le vaccin polio. À l'heure actuelle, malgré 50 ans d'expérience, nos capacités mondiales, je dis bien mondiales, sont d'environ 100 millions de doses. Donc pour passer de 100 millions à des milliards de doses, vous voyez un peu le schéma qu'il faut. Alors il est fort possible qu'apparaisse un vaccin révolutionnaire, produit très facilement et en quantité très importante. Je n'en sais rien. Mais si on se réfère à ce qu'on connaît dans le passé, il faut être prudent, car les aspects industriels sont souvent traité notamment par la recherche comme un aspect trivial. Les industriels vont se débrouiller. Donc si vous voulez, c'est pas du tout aussi simple. Regardez la grippe, lorsque la grippe est arrivée, H5N1, on s'est aperçu, la grippe aviaire, que les capacités mondiales de vaccins étaient d'environ 500 à 600 millions de doses. Vous voyez que pour passer à 7 milliards, il aurait fallu un travail colossal qui a été entrepris mais qui est loin d'être arrivé. Donc avant de se prononcer sur les millions de doses qu'on produit, il faudrait savoir la nature du vaccin, sa qualité et sa facilité d'être produit.
Et à titre d'exemple, on peut citer aussi quand il y avait eu la résurgence de fièvre jaune au Brésil, il y avait eu un moment où c'était vraiment posé aussi les limites en termes de production de ce vaccin qui est connu, qui est éprouvé, mais seulement il n'en sortait pas suffisamment, pour parler trivialement, des usines.
Oui, mais pour les épidémies de fièvre jaune, c'est assez classique. Chaque fois qu'il y a une épidémie, on est en rupture, car effectivement, l'industriel produit 20 millions de doses, et puis ensuite, il arrête sa production. Donc, on ne peut pas reproduire rapidement. C'est un peu le problème de la grippe. Aujourd'hui, le gouvernement français a commandé 13 millions de doses. La production chez Sanofi, par exemple, est totalement arrêtée. On ne produit plus de vaccins. Donc, si demain, on a besoin de 15-20 millions, il n'est pas possible que l'usine reproduise. Donc, si vous avez commandé 13 millions, vous aurez 13 millions de doses. Donc ça, c'est un risque de pénurie, mais qui se produit chaque fois qu'il y a une épidémie.
Docteur Saluzzo, excusez-moi de vous interrompre, pourquoi on ne peut pas reproduire, hein? Moi, c'est la profane qui vous pose la question. On a besoin de vaccins contre la grippe, on est l'épidémie de grippe, hein, d'après les informations du bulletin épidémiologique, n'est pas vraiment commencée. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se remettre à produire? Question idiote, mais je pense que votre réponse sera étayée. Question idiote qu'on se pose nous tous ici dans le studio. Pourquoi dans un mois, on ne peut pas avoir des nouvelles doses?
Alors, la production de la grippe dure 5 mois. Voilà. On a deux vaccins grippe. On a un vaccin pour l'hémisphère nord et un vaccin pour l'hémisphère sud. Par exemple, le laboratoire reçoit la souche de l'OMS en février et produit jusqu'au mois de juillet, août, et puis après, le vaccin est dans les pharmacies. À ce moment-là, le laboratoire arrête et produit un vaccin pour l'hémisphère sud. Alors, pourquoi ne peut-on pas augmenter plus que ce qui est commandé? Pour produire un vaccin grippe, il faut un support vivant, c'est-à-dire des œufs embryonnés. Pour développer des œufs embryonnés, il faut des poules et des coqs. Or, les industriels travaillent avec l'industrie avicole qui, au mois de juin-juillet, commence à mettre en place les parquets en fonction des besoins de l'industriel. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas, à partir, disons, de décembre, etc., augmenter ces capacités en quantité d'œufs. Et les industriels traitent des quantités phénoménales. Il faut savoir que quand Sanofi annonce qu'ils ont produit 250 millions de vaccins contre la grippe, ils ont utilisé 250 millions d'œufs. Un œuf ne fournit qu'une dose. Donc comprenez très bien que l'industrie avicole n'a pas la possibilité de moduler aussi facilement et en augmentant leur capacité de production d'œufs. Une fois que la quantité est figée, c'est-à-dire lorsque les industriels ont pris connaissance des commandes, ils peuvent effectivement à la marge augmenter de 10% par exemple, mais après la production est définitive. Si vous avez commandé 15 millions de doses, vous aurez au final 15 millions de doses.
Question simple, mais réponse passionnante. Justement, le grand défi de la défiance, de la confusion aussi, Patrick Zilberman, si demain on a le vaccin pour que ça marche, si on regarde justement dans le rétroviseur, dans le passé, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a vraiment été percutant pour obtenir une couverture vaccinale optimale?
Ben, on peut dire que effectivement c'est la confiance entre les populations et les autorités. On a cet exemple que j'ai repris dans le bouquin de la grande campagne de vaccination de masse justement contre la variole en Bretagne en 1955. Si vous voulez, tout ça a été organisé sur place par la préfecture du Morbihan. Et il est clair que la population avait une confiance absolue, non seulement dans les médecins, mais dans les autorités administratives aussi. Et par conséquent, la campagne de vaccination s'est fort bien passée et très rapidement passée avec une très bonne efficacité. Si vous n'avez pas cette confiance, si vous voulez, au départ, vous pouvez rien faire.
Donc il y a le contexte, mais il y a aussi tout ce qui est en amont en termes de préparation. Beaucoup de commentaires forcément dans les médias, les gens sont interrogés. Certains se plaignent parfois d'une forme d'improvisation, même si ce n'est pas forcément le cas. Quand on réfléchit à une stratégie vaccinale, qui décide? Ça se prépare combien de temps à l'avance?
Ben, en réalité, la stratégie vaccinale, elle est déjà prête, si vous voulez. Si on fait l'histoire des politiques publiques de vaccination en France, par exemple, vous avez cette méfiance que je rappelais tout à l'heure de l'administration française vis-à-vis de la vaccination de masse. Et cette préférence pour la vaccination des groupes prioritaires, si vous voulez, où l'idée n'est pas de limiter la circulation du virus, mais de protéger certaines catégories de la population. Le problème, si vous voulez, c'est que ces deux stratégies sont alternativement tout à fait défendables. Encore faudrait-il qu'elles soient accompagnées justement de pédagogie et de communication publique qui soient adaptées. Et c'est là où le bas blesse.
Et justement, en conclusion de votre livre, on arrive à la fin de cette émission, en conclusion de votre livre, Patrick Zilberman, vous écrivez encore faut-il que les règles soient perçues comme simples et raisonnables. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment l'impression que ce qu'on demande aux Français, justement, pour freiner l'épidémie, ces règles sanitaires dans un pays comme le nôtre, est-ce que ces conditions sont là, simples et raisonnables ?
Alors, les règles, elles sont simples et raisonnables. Le problème plus discutable, c'est leur mise en œuvre. C'est clair, si vous voulez, que leur mise en œuvre n'est pas toujours, toujours extrêmement claire et raisonnable, justement, alors que les règles le sont, elles. Pourquoi ? Parce que les règles, elles sont définies par les épidémiologistes, par exemple, les gestes barrières, les choses comme ça. Alors que leur mise en œuvre, elle dépend des pouvoirs publics, ces pouvoirs publics centraux, ou bien des pouvoirs publics locaux. Et là, on a vu ce qui s'est passé à Marseille il y a pas très longtemps, si vous voulez. On voit très bien que il y a un gros problème. Il y a un problème de formation des responsables, des élus locaux, par exemple. À la lutte contre les épidémies, formation qui n'a jamais été faite, qui n'est pas faite, qui est un terrain, si vous voulez, sur lequel les élus ne se sentent pas très à l'aise. Et il y a tout un problème, justement, à repenser, si vous voulez, à ce niveau, aussi bien au niveau de l'administration centrale, de la DGS, par exemple, qu'au niveau des administrations locales, régionales ou départementales.
On a compris des choses qui ne s'improvisent pas. On vous remercie tous les deux pour cet échange. Patrick Zilberman, je renvoie vers votre livre publié chez Odile Jacob. Pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, on peut bien sûr regarder en arrière la guerre des vaccins. Et merci Jean-François Saluzzo, virologue consultant vaccin. On se laisse en musique avec le groupe Calexico Crystal Frontier.
Margot's shadow falls on the door to the seven lost cities of gold. Finds a raven's head in a rattlesnake's tail. Dead in his tracks, this godforsaken soul's unwanted here. This curse still lingers for years. Amelia's face hides behind the mask, sweating on the TV factory line. That smile on her face is starting to crack, while wielding back the pieces of a shattered heart that's scattered out here with the ghost of her fear. Searches for her lost child along the river of tears. The river of tears. The end of the working week. The drunken worlds meet. Both sides are keeping a close eye for a break in the line here on the crystal floor.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussama Ké, Ophélie Lassen, Didier Bleu et Laurent Snow aujourd'hui avec nous. Et demain, dans Priorité Santé, vous retrouverez le docteur Catherine Solano, sexologue, en direct avec nous en ligne pour répondre à vos questions. Le thème du jour, ce sera sexualité épanouie. Et on attend, bien sûr, vos messages, comme tous les jours, sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve demain avec le docteur Solano. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.